Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, 28 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire à cause de l'ampleur des déplacements provoqués par l'intensification du conflit en RDC. C'est ce que révèle le Programme alimentaire mondial qui cite notamment les provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri, Tanganyika dans un rapport. En Ituri, deux jours après l'effondrement d'un immeuble de 3 étages dans la ville de Bunia, 12 personnes sont sorties vivantes des décombres et 3 autres sont mortes. Les travaux de recherche des survivants par les casquets bleus de la MONUSCO et d'autres équipes des secouristes se sont clôturés ce samedi. Notre invité est Landry Bissi Di Chilombo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour le contrôle des armes légères, CNCALPC. Il appelle à la contribution à la paix et à la sécurité de la RDC à l'issue d'un atelier sur la mise en œuvre du plan d'action national sur les ALPC en RDC qui s'est tenu du 21 au 22 mai à Kinshasa. Bonjour à tous. L'ampleur des déplacements des populations provoqués par l'intensification du conflit en RDC pousse l'insécurité alimentaire à des niveaux critiques, avertit le Programme alimentaire mondial PAM. Cette situation exacerbe la réponse humanitaire déjà mise à rude preuve en RDC et dans les pays voisins. Cette agence onusienne parle de 28 millions de Congolais désormais en insécurité alimentaire. Le PAM dit intensifier ses efforts pour que l'aide vitale parvienne aux communautés déplacées. Cependant, l'assistance ne suit pas le rythme des besoins croissants, dit-il. Le condensé de ces rapports avec vous, Ronéline Tibonera.
Selon le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans le province de l'Est, à savoir Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, est passé de 6,6 à 7,9 millions, ce qui fait un cumul de 28 millions de Congolais affectés par l'insécurité alimentaire aiguë, dit l'EPAM. De ces statistiques, il ressort que plus de 92% de ménages au Nord et au Sud Kivu sont touchés par cette crise alimentaire. Une situation qui s'explique par l'augmentation du prix des denrées locales à cause de l'insécurité qui entrave le route commerciale et l'accès au marché. La production alimentaire dans le Grand Nord du Nord Kivu, un centre agricole clé, est gravement perturbée. Toujours d'après les PAM, cette insécurité alimentaire touche également près de 140 000 Congolais qui ont fui vers les pays voisins au cours des 4 premiers mois de 2025. Femmes, enfants et personnes âgées sont les plus vulnérables dans les sites de déplacement surpeuplés. En réponse à cette crise, le PAM déclare avoir assisté environ 1,1 million de personnes dans le province de l'Est entre janvier et mars 2025. Cependant, l'insécurité et la pénurie alimentaire et la fermeture de l'aéroport de Goma sont les principaux défis auxquels fait face le Programme alimentaire mondial actuellement.
Le contexte actuel que traverse le pays expose la population à diverses maladies cardiaques et métaboliques, notamment, alerte un acteur de la société civile du Nord Kivu. Pour lui, le nombre des morts subites, la séparation des familles, le changement brusque du mode alimentaire sont en quelques exemples éloquents qui illustrent et traduisent le traumatisme et le stress que vivent au quotidien les habitants de la partie est du pays. Il propose des consultations précoces et l'installation des cliniques de proximité pour détecter les cas éventuels de dépression. Il est nécessaire et urgent de développer une résilience prophylactique et le renforcement de la solidarité nationale et internationale pendant cette période, propose Vicar Batundi. On l'écoute.
Nous constatons que la situation devient de plus en plus alarmante. D'abord, nous observons la perte de capitaux pour les commerçants et les entrepreneurs qui accumulent aussi des dettes, la séparation des familles pendant plusieurs mois, les changements brusques du mode alimentaire, mais également il faut noter le fait que les réseaux sociaux de la RDC sont inondés par des informations toxiques, des cas de torture, de tuerie, kidnapping, et cela expose la population aux maladies. Et donc, il y a nécessité de développer une résilience, renforcer la solidarité nationale et internationale pour nous soutenir mutuellement pendant cette situation difficile. Il faut organiser des causeries familial, couplé à la prière vespérale. Il faut rire aux éclats, même à l'occasion de rien. Mais la solution la plus durable est d'amener la paix la plus durable.
Il conseille à la population de ne pas considérer la souffrance comme un mode de vie, mais plutôt de développer une certaine résilience. Nous l'avons dit dans les titres, à Bounia, 12 personnes sont sorties vivantes des décombres de l'immeuble de 3 étages qui s'est effondré jeudi et 3 autres sont mortes. Les travaux de recherche des survivants par les casquets bleus de la MONUSCO et d'autres équipes de secouristes se sont clôturés ce samedi matin. Cependant, certaines familles, dont les membres sont jusqu'à la portée disparue, plaident pour la poursuite des fouilles. Isaac Raymond.
Les casques bleus de la MONUSCO et leurs engins, dont 3 chargeuses et une excavatrice, ainsi que l'équipe de secouristes de la Croix-Rouge, ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pendant 2 jours pour sauver des vies humaines. Les premiers jours, 6 personnes ont été extraites vivantes des décombres et 6 autres vendredi vers 16 heures. Tous ces rescapés qui sont blessés ou fracturés ont été acheminés d'urgence dans des structures sanitaires locales. Le bilan provisoire s'établit à 3 personnes mortes et 12 rescapés. Tous les engins ont été retirés ce samedi matin du chantier. Cependant, certaines familles des disparus sont rassemblées au chantier pour exiger la poursuite des travaux dans l'espoir de retrouver les corps de leurs membres, les parents d'un élève stagiaire de 14 ans.
Ils ne pouvaient pas suspendre les travaux comme ça pendant que les corps de victimes sont encore là. Ils devraient dégager progressivement des débris jusqu'à ce que les terrains restent vides. Notre enfant est là, sous les décombres. Son collègue qui est sorti vivant affirme qu'il l'a vu. Il était assis. Il est là, il est déjà mort.
Le nombre des disparus n'est pas connu. Selon les rescapés, ils étaient au total 30 ouvriers, dont 7 élèves stagiaires, des maçons, soudeurs et électriciens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, Tropenbos RDC sensibilise les acteurs étatiques et les organisations de la société civile sur le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales en matière des CLIP, c'est-à-dire consentement libre et informé préalable. Une centaine d'acteurs ont pris part à cette activité dont l'objectif est de renforcer leurs capacités afin de s'assurer du respect des droits des communautés locales. Celles-ci doivent être également informées des impacts socio-environnementaux avant la réalisation des projets. À Kisangani, une correspondance de Jacques Mkonkole.
L'organisation de cet atelier découle du constat des Tropenbos selon lesquels les lois en matière foncière, minière et environnementale ne sont pas du tout appliquées ou ne le sont que partiellement par ceux-là qui sont censés les respecter, d'où la nécessité de les sensibiliser quant à ce. Félicien Moussengue, son coordonnateur, décrit les comportements attendus d'eux au terme de cet atelier.
Avant toute cession de terre, avant l'exploitation, ils doivent préalablement demander ou solliciter les consentements des peuples autochtones. Les communautés locales, mais aussi essayer de faire des études à impact social et environnemental.
Ces études préalables à la réalisation de tout projet environnemental ne sont pas menées. Les risques ne sont pas non plus communiqués aux communautés locales. Or, ils sont réels et certains, comme l'explique Maître Patient Bisselengue, consultant en droit de l'environnement.
Aujourd'hui, il y a des problèmes sur les plans environnementaux. Quand, par exemple, il pleut abondamment, vous verrez que les eaux ne savent plus couler normalement sur l'air habituel parce que les endroits interdits de construction, mais les gens construisent point qu'ils y rétrécissent les lits normaux des cours d'eau.
Conscients de leurs responsabilités, les acteurs étatiques promettent de changer le fusil d'épaule, comme l'a déclaré l'un d'eux, l'ingénieur Moïse Adjaotema de la coordination provinciale de l'environnement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, les pays du bassin du Congo réaffirment leur engagement à soutenir la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever Facility pour la préservation et la protection des forêts tropicales. Le Cameroun, la République centrafricaine RCA, le Congo, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo ont pris cette décision lors du dialogue régional organisé les 22 et 23 mai à Kinshasa. Ils ont reconnu le rôle essentiel de cette initiative ainsi que la nécessité d'un financement durable et équitable pour accompagner leurs efforts de conservation et de préservation de la biodiversité. Les explications avec vous, Blaise Dongala Mayanda.
En tant que propriétaire et gardien de la deuxième grande forêt tropicale humide du monde, les pays du bassin du Congo soutiennent les moyens de subsistance d'un nombre considérable de personnes, en particulier les peuples autochtones et les communautés locales. Après débat et réflexion, ils appellent à un nouveau mécanisme susceptible de combler le vide que crée le manque de modèles de financement à long terme pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Pour la ministre d'État en charge de l'environnement, les pays du bassin du Congo ne doivent plus négocier en parents pauvres vu leur richesse environnementale.
Quand nous allons dans des programmes comme des institutions de Bretton Woods, on dit on va aider les pays pauvres. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas pauvres. Nous avons les forêts, nous avons les ressources en eau. Pourquoi ne pas considérer nos forêts, cette richesse-là, comme étant une caution? Par exemple, l'absorption des pollutions par hectare, par tonne de carbone, ça coûte combien? On peut le quantifier. Par exemple, une biche un okapi, un chimpanzé, un bonobo, a quelle valeur dans nos forêts et nous en avons combien? Les perroquets gris.
Elle appelle par ailleurs les partenaires bilatéraux, multilatéraux et privés à travailler avec les pays du bassin du Congo en vue de s'assurer de la transparence de l'initiative tropicale Forest Forêt Vert Facility.
Autre nouvelle, au Kasai Oriental, visite surprise hier à l'Institut Kalenda Mudishi dans la commune de Lankanshi, à Mbujimayi. Au cours de cette visite, le vice-gouverneur des provinces s'est rendu compte des conditions d'études déplorables d'apprentissage dans lesquelles les élèves de cette institution scolaire sont exposés. Le vice-gouverneur s'est assis sur un bidon pour suivre les enseignements. Docteur Augustin Kayembe Moulemena s'exprime au micro des journalistes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, station de Mbujimayi. Suivez.
Ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai failli couler de larmes. Les élèves qui étudient sous les arbres, assis sur le morceau de pierre, vraiment les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours aux élèves, ça fait très mal. Alors que le chef de l'État a mis une grosse enveloppe ici pour la construction de cet institut à Kalenda Mudishi. Mais des travaux qui n'ont pas fini jusqu'à ce jour ici. Je pense que de mon côté, en tant qu'autorité provinciale, j'ai le devoir de m'investir, de m'impliquer le plus tôt possible pour qu'on relance les travaux de finition afin que ces enfants recouvrent leurs conditions initiales d'étudier. Les élèves, je les encourage. Les encourager, les réconforter qu'ils ne sont pas abandonnés par l'autorité provinciale, encore moins par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pense toujours en nous. Ce qui prouve à suffisance que cet édifice, il n'y en avait pas avant. C'est de sa propre volonté, son implication, que nous allons bénéficier de ces ouvrages ici, de grande envergure. Alors les élèves doivent se rassurer réellement que cet institut, les travaux vont terminer demain et ils vont étudier dans de meilleures conditions.
Signalons que les travaux de construction et modernisation de cette école ont débuté depuis l'an 2021 avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Retour au Nord Kivu. La division des affaires sociales en collaboration avec les différentes structures qui luttent pour la protection de l'enfant a lancé hier à Beni, chef-lieu provisoire de la province, une campagne de lutte contre l'exploitation économique des enfants. Pendant cette campagne, des équipes vont sillonner les différents quartiers de la ville pour identifier les différents milieux où sont utilisés ces enfants. Objectif, lutter contre le phénomène des enfants mendiants et autres qui sont en conflit avec la loi. Dans un mémorandum lu et remis au maire de la ville, Alex Kioma, le responsable de la division des affaires sociales dans la ville de Beni, revient sur quelques recommandations dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
À travers les transports de biens et de services, dans les transports de motos triporteurs, dont certains abandonnent l'école pour se faire exploiter au sein des groupes armés. Ainsi, ces enfants exploités sont exposés à plusieurs risques et créent même les sécurités routières pour non-maîtrise des codes routiers. La recommandation que nous donnons aux autorités de la ville est de traquer tous les agents conduits par les enfants, dans lesquels les enfants sont utilisés comme bombes, pour que les responsables répondent devant la justice pour l'intérêt supérieur des enfants. Les commerces ambulatoires sur toute l'étendue de la ville. Les enfants sillonnent toute la ville jusqu'à tard dans la nuit, exposant les enfants à plusieurs risques dont les viols, l'enlèvement, le kidnapping, le tamponnement, la consommation prématurée de l'alcool et stupéfiants, enlèvement et recrutement au sein des groupes armés. Recommandation, l'implication des autorités urbaines pour décourager cet abus fait aux enfants, en prenant un arrêté interdisant cette pratique sur toute l'étendue de la ville, au non-respect duquel les responsables contrevenants seront interpellés au tribunal pour enfants. Les enfants à rupture familiale dit autrement de la rue. Ces enfants se livrent au vol et aux menaces sur toute personne. Recommandation, l'implication de l'autorité urbaine pour traquer ces enfants et les mettre à disposition de la police et la protection de la faim, où ils seront écoutés afin qu'ils donnent les adresses de leurs parents.
Alors que la saison sèche s'approche, un petit insecte noir, rouge et orange commence à faire son apparition dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et des victimes également. Il s'agit du Padérus, localement appelé Ekonda. Cet insecte d'environ 10 mm de long provoque des brûlures et des éruptions cutanées lorsqu'il est écrasé sur la peau. Nancy Tambo et Elise Kavira nous en disent plus.
Faites attention aux Ekonda. Cet avertissement commence à être donné dans plusieurs foyers de Kinshasa. Inoffensif en apparence, ce petit coléoptère peut pourtant causer des irritations cutanées si par mégarde il est écrasé sur la peau. Docteur Kapiambabadi Banga, un professionnel de santé, nous en dit plus sur le Padérus.
Le Padérus, c'est un insecte, c'est pas une maladie. Donc c'est un insecte, un coléoptère. On trouve souvent dans les zones tempérées et puis tropicales.
Les victimes, elles racontent leur calvaire. Rougeur, démangeaisons, brûlures, les lésions causées par le paedereus peut durer plusieurs jours.
Quand j'ai demandé à ma maman, elle m'a dit que c'est le Conda. Je pensais qu'on allait me couper la main parce que ça me faisait mal. Je sentais des brûlures et je n'arrivais pas à toucher la partie où ça m'avait brûlé. Ça s'est terminé quand j'ai appliqué du miel, puis ça s'est troué et puis c'est fini.
Pour ce qui est des précautions à prendre, Dr Kapiambabadi Banga recommande ceci.
Ce qui est recommandé, d'abord, c'est de ne pas écraser l'insecte. Cependant, si vous avez déjà écrasé, que vous remarquez que c'est l'insecte, il est recommandé d'aller rincer la peau immédiatement avec de l'eau.
Le paedereus étant attiré par la lumière, il est recommandé d'éviter de se placer directement près des sources lumineuses et de bien vérifier le linge, surtout exposé à l'extérieur.
Actualité internationale.
Cabral Libi est le candidat officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a été choisi par les bureaux politiques de ses partis et l'annonce a été faite au cours du congrès de son parti dans l'arrondissement de Nkolafamba, près de Yaoundé.
L'invité.
Landry Bissili Chilombo, secrétaire permanent de la Commission nationale pour le contrôle des armes légères, CNCALPC, lance un appel national pour la contribution à la paix et à la sécurité de la RDC. Il invite à ce sujet les organisations internationales afin d'aider et appuyer la RDC pour sécuriser ses armes. Il intervient comme invité de ce journal à l'issue de l'atelier sur la mise en œuvre du plan d'action national sur les ALPC en RDC qui s'est tenu du 21 au 22 mai ici à Kinshasa. Il s'entretient avec Bertin Kassiama et Sandrine Kinsweki.
Monsieur Landry Bissidi Chilombo, bonjour.
Bonjour.
Avant tout, pouvez-vous nous dire c'est quoi une arme légère et un petit calibre? Quel type d'arme pouvons-nous classer dans cette catégorie?
Une arme légère, c'est une arme facile à transporter. Une arme qu'une seule personne peut transporter. Donc c'est ça l'arme légère. Donc, d'ailleurs, le mot l'est dit, parce que nous avons... Il y a une différence entre une arme légère et une arme lourde. Une arme légère, c'est une arme transportable par une seule personne. Et pour les calibrages, le petit calibre, c'est une arme qui a plus ou moins 100 mm de calibre. Et nous avons beaucoup d'armes légères. Hein. Tout ce qui est transportable par une seule personne, nous avons des AK, nous avons des revolvers, nous avons des MAG.
Dans cette même optique, pouvez-vous nous faire un état du lieu concernant les ALPC en RDC?
Ben, on peut dire que, pour le moment, s'il faut parler premièrement de la prolifération des armes légères de petit calibre, on peut dire que la RDC a vraiment lutté pour contenir la prolifération des armes légères de petit calibre sur toute l'étendue de la République par rapport à ce système de marquage qui a été instauré depuis 2015. C'est un système qui consiste à donner un numéro ou une identité unique à l'arme afin que ça puisse être facilement traçable. Et ça nous a permis de contrôler toutes les armes qui circulent sur notre territoire. Mais quand même, on a le contrôle par rapport aux années antérieures. Et malheureusement, pour le moment, avec cette intrusion, avec cette agression de l'ennemi, et il y a encore déjà beaucoup plus des armes qui circulent sur toute l'étendue de la République et surtout dans la partie orientale. Et comme vous connaissez, il y a vraiment une recrudescence de la criminalité armée. Il y a des braquages même en plein jour, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Donc c'est suite à ces forts flux des armes légères dans le pays après l'intrusion du Rwanda dans notre pays.
Parlons justement de cette circulation des armes illicites. Au niveau de votre organisation, qu'est-ce que vous comptez faire pour limiter cette circulation?
Maintenant, par rapport à cette recrudescence, nous avons un contrôle permanent, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les provinces. Il y a les contrôles dans les armureries, dans nos lieux de stockage, des armes organiques bien sûr, dans les armes utilisées par l'État, que ce soit les FRDC, la police ou tous les services de défense et sécurité. Et nous avons aussi instauré un système de contrôle obligatoire pour tous les civils qui détiennent des armes. C'est d'ailleurs une mesure très dissuasive parce que si vous savez que votre arme est contrôlée, vous ne laissez jamais les céder à un criminel. Parce qu'une fois trouvée, une arme est marquée, on sait facilement retracer et connaître le dernier utilisateur, que ce soit l'arme détenue par les civils ou l'arme de l'État.
Quel message adressez-vous aux autorités congolaises et aux partenaires internationaux pour maintenir l'élan et garantir la mise en œuvre effective du plan d'action national?
Oui, je dirais aux nationaux que la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée est active sur toute l'étendue de la République. Bien qu'il y a pas mal de défis, nous avons les défis géographiques, nous avons les défis financiers qui nous mettent en mal quant à la réalisation de nos projets ou de ces plans d'action nationale. Mais ils rassurent que nous sommes là pour contribuer à la paix et la sécurité de notre beau pays. Et quant aux organisations internationales, je dirais que ceux qui doutent encore, ou ceux qui ne sont pas au courant, à partir de vos ondes, que la RDC a besoin d'appui pour mieux sécuriser ses armes. Il y a tant de choses qui ont été faites, et félicité, je pourrais rappeler que la RDC est parmi les meilleurs gestionnaires de ses armes en Afrique. Ça a été prouvé partout. Mais sauf que nous avons encore un bon chemin à faire. Donc nous avons besoin d'aide, besoin d'appui par rapport à leurs possibilités.
Je vous remercie.
Par ici s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Moulima et supervisé par Alain Rong, la mise en onde de Mimi Kindou, grâce à Mzati à la présentation. Merci pour votre confiance.